Salut à tous et salut à toutes et bienvenue dans Two Beatles or Not To Be. Aujourd'hui, un épisode spécial consacré à George Harrison, son parcours au sein des Beatles. Imaginez juste un instant que vous êtes un ado, que comme pas mal d'ados, vous jouez de la guitare dans un petit groupe de copains, que deux de vos camarades s'avèrent être d'immenses génies musicaux et que vous atteignez une célébrité mondiale grâce à leurs compositions. Comment vous gérez ça? Comment vous vous y prenez pour créer votre propre espace pour bâtir votre propre légitimité de musicien? Eh bien, George Harrison, c'est ça. C'est l'histoire de l'éternel petit frère effacé derrière les auras très encombrantes de John Lennon et Paul McCartney qui parvient avec brio à se frayer une place à la lumière et même à faire de l'ombre à ses deux compères. George, c'est le plus jeune des quatre Beatles et c'est aussi le plus jeune des quatre enfants de Harold Harrison et Louise French. Il naît un 25 février en 1943 en banlieue de Liverpool où il passe une enfance heureuse au sein de cette famille modeste dont le papa est chauffeur de bus et la maman employée de commerce. Quand il a une douzaine d'années, il commence à s'intéresser à la musique et tend une oreille captivée quand il découvre successivement le jazz de Django Reinhardt, puis le skiffle de Lonnie Donegan,
oh, Rosemary.
Et la country de Slim Whitman.
Oh, Rosemary, I love you. I'm always dreaming. Step on my blue suede shoe.
Il a un choc quand il tombe sur le rockabilly de Carl Perkins auquel il voue un véritable culte.
Knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do.
Although it's always crowded.
Et quant au rock'n'roll d'Elvis Presley, n'en parlons pas.
For broken-hearted lovers to cry, then it will be so.
C'est à partir de ce moment que le petit George se découvre une passion insatiable pour le fascinant instrument à cordes de ses idoles, la guitare. Un enthousiasme et une curiosité qui ne le quitteront jamais. Lorsque ses professeurs font remarquer aux parents Harrison que tout ça c'est bien gentil mais il faudrait tout de même qu'il fasse autre chose en classe que dessiner des guitares partout sur ses cahiers, le papa acquiesce. C'est vrai George, fais tes devoirs d'abord, les chansons on verra après. Mais la maman, qui aime bien la musique, l'encourage. Harold finit par se laisser convaincre et achète la tant attendue première guitare. Il organise même, avec un ami à lui, des leçons de musique pour son fils. Vient ensuite l'inévitable premier groupe avec des copains, un groupe nommé les Rebels, et qui joue, c'est la mode à l'époque à Liverpool, du skiffle. Les Rebels ne vont pas durer très longtemps, mais juste assez tout de même pour se produire une fois en concert, ce qui ne manque pas d'impressionner le copain que George s'est fait dans le bus de l'école, un autre mordu de musique, le jeune Paul McCartney. Et oui, la première fois que deux futurs Beatles se rencontrent, c'est dans un car scolaire. Matin et soir, Paul et George discutent guitare. De son côté, Paul parvient à intégrer un autre groupe de skiffle du coin, les Quarrymen, dirigé par un certain John Lennon, et il propose à ce dernier d'auditionner un copain à lui qui pourrait aussi les rejoindre. La rencontre a lieu une nouvelle fois dans un bus à l'Impérial, mais John, qui avec ses 18 ans fait figure de grand frère charismatique de la bande, est tout d'abord rebuté par le jeune âge de George, seulement 15 ans. Paul, lui, en a 16 et ça fait beaucoup de différence à cet âge-là. Finalement, une fois que le petit nouveau fait sonner sa guitare en jouant à la perfection Raunchy de Bill Justice, le leader des Quarrymen doit admettre qu'il est impressionné. c'est validé, George Harrison intègre les Quarrymen. Nous sommes au début de l'année 1958. Petit à petit, l'affaire devient de plus en plus sérieuse et George décide de quitter l'école pour se consacrer aux concerts. Pour lui, c'est évident, c'est la musique ou rien, comme il l'explique plus tard sur la télévision française.
Je n'avais aucun travail, je n'avais aucun emploi et je n'avais aucune qualification. Si je n'avais pas été musicien, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je n'avais aucune ambition comme celle de devenir un pilote d'avion ou que sais-je encore. Je voulais juste jouer de la guitare.
Les Quarrymen deviennent les Beatles, au sein desquels George se voit attribuer le poste de guitariste solo et de choriste, ainsi que chanteur principal sur certains morceaux. Les soirées de concert s'enchaînent, viennent les auditions pour les maisons de disques, sans succès, jusqu'au rendez-vous de la dernière chance chez EMI avec le producteur George Martin. Intrigué par ces quatre énergumènes, ce dernier leur rediffuse leurs prestations en leur demandant si tout s'est bien passé ou si quelque chose ne leur convient pas. Et George Harrison répond du tac au tac « Tout d'abord, j'aime pas votre cravate ». Une réplique pince sans rire caractéristique du personnage qui détend immédiatement l'atmosphère et il est ainsi tentant de se dire que c'est grâce à George Harrison que les Beatles sont finalement engagés en 1962. Et le succès est foudroyant. Les reprises que joue le groupe ainsi que les compositions du tandem Lennon-McCartney marchent du tonnerre et ce partout dans le monde. Après un album et quatre singles à jouer les morceaux des autres, George Harrison se dit qu'il aimerait bien voir si lui aussi il est capable de créer une chanson comme ça de toute pièce. Un jour de tournée en Angleterre, alors qu'il est malade et cloîtré à l'hôtel, il s'assoit dans sa chambre et élabore sa toute première composition, Don't Bother Me, Viens pas m'embêter, à l'heure où les Beatles sont submergés par leurs fans. L'ambiance du morceau est maussade, avec un mode mineur, les paroles livrent un sentiment de mélancolie et de colère, ce qui contraste avec les chansons d'amour habituelles du groupe, mais ce qui deviendra l'une des marques de fabrique de Harrison. Le résultat n'est pas exceptionnel, George lui-même ne considère pas qu'il s'agisse d'une bonne chanson, mais cet exercice le convainc de continuer à pratiquer la composition pour s'améliorer. En tout cas, il faut saluer ses efforts à ce moment-là, car il aurait pu se contenter de copier ce que font Lennon et McCartney. Mais non, Don't Bother Me, c'est du 100% Harrison.
Same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone, don't bother me. I can't believe that she would leave me on my own. It's just alright when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never. If I don't get her back again, because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home. Until that day, don't come around. She's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me.
Don't bother me. Bother Me sur le deuxième album des Fab Four with the Beatles, fin 1963. Après ce premier essai, George persévère. Les prolifiques Lennon et McCartney lui concèdent une ou deux plages par-ci par-là sur les disques suivants pour placer ses compositions, mais pendant deux ans et demi, ses titres restent assez passables et n'attirent pas vraiment l'attention. C'est à la même époque que George Harrison se voit affublé d'un surnom qui lui collera à la peau, le Quiet Beatle, le Beatle calme. En réalité, même s'il apparaît souvent concentré sur scène et beaucoup moins exubérant que John, et qu'il garde ses distances avec les médias, c'est probablement surtout à cause d'une pharyngite qui l'empêche de parler lors de la première tournée américaine du groupe que la presse lui attribue ce qualificatif. Toujours durant cette période Beatlemaniaquesque, l'album et le film A Hard Day's Night sont l'occasion d'événements marquants pour George. Tout d'abord, c'est sur le tournage de ce long métrage qu'il rencontre sa première épouse, la mannequin et photographe Patty Boyd. Ensuite, si Harrison ne brille pas encore par ses compositions, c'est en tant que guitariste qu'il commence à marquer son époque. Et ce, grâce à son éternelle curiosité et sa recherche de nouveautés. En effet, les connaisseurs entendent et voient pour la première fois sur le disque et le film A Hard Day's Night un genre de guitare jusqu'alors quasiment inconnu, la Rickenbacker 372. George Harrison est un pionnier de la guitare électrique 12 cordes. Le Beatle s'est vu offrir un des tout premiers prototypes de ce modèle et il est tellement séduit par ce nouveau son original, produit grâce à un accordage inhabituel, qu'il l'utilise à foison sur l'album. On peut dire que la marque Rickenbacker a eu du flair parce qu'ensuite sa guitare se vend comme des petits pains. L'instrument est utilisé la première fois sur la chanson You Can Do That, une compo de Lennon.
Got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you black. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I let you down.
Let you down.
I leave you flat.
Gonna let you down and leave you flat.
Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, 'cause I'm the one who won your love. But if they'd see
La sonorité de la Rickenbacker 372, qui connaîtra de nombreux adeptes chez les guitaristes de l'époque grâce à George Harrison. Ce dernier apporte régulièrement comme ça de la fraîcheur aux Beatles avec des petites trouvailles, jamais de manière démonstrative, toujours juste ce qu'il faut, discrètement, au service de la chanson. En particulier, un de ses faits d'armes majeurs est d'être le premier musicien pop-rock à s'enregistrer à l'envers. plus précisément à jouer un solo à l'envers pour que, une fois inversé, la mélodie colle avec le morceau et ait une sonorité unique. Ça se passe sur la chanson I'm Only Sleeping de John Lennon, une ode à la paresse, et le résultat colle parfaitement à l'ambiance onirique de la chanson. Voici ce qu'a à l'origine joué Harrison à l'issue d'un enregistrement qui a demandé des heures d'exercice. C'est ce qu'on entend en écoutant le morceau à l'envers et donc le solo à l'endroit. J'espère que vous suivez. Et voici ce que donne donc le résultat final. C'est donc en 1966 sur l'album Revolver que le grand public entend pour la première fois un instrument à l'envers. Inutile de préciser que cette performance a là aussi inspiré nombre d'autres musiciens. I'm Only Sleeping et son historique solo inversé. Parmi toutes les découvertes de George Harrison, il y en a une qui va marquer durablement son style, sa carrière et même sa vie entière, et ce sans exagérer, celle de la musique indienne, et par ce biais de la culture et de la philosophie de ce pays. L'étincelle se produit lors du tournage du film Help en 1965. Des musiciens indiens sont engagés pour jouer dans une scène du long métrage et de la même manière qu'était née sa fascination pour les guitares 10 ans plus tôt, Harrison, qui a maintenant 22 ans, reste bouche bée cette fois-ci devant les invraisemblables instruments qu'il a sous les yeux et leur sonorité, et en particulier devant l'imposant sitar indien. George se procure immédiatement des disques de la référence en musique classique indienne, le maître du sitar Ravi Shankar. Beatle achète le premier sitar bas de gamme qui lui tombe sous la main et le popularise dans le milieu pop-rock occidental en l'introduisant de manière inédite dans sa musique. La première fois que le grand public peut entendre du sitar sur un disque de musique populaire en Occident, c'est celui de George Harrison sur la chanson Norwegian Wood de John Lennon fin 1965. Et je peux vous dire que les ingé-sons d'Abbey Road, qui n'avaient jamais vu un machin pareil en studio, se sont bien arrachés les cheveux pour réussir à l'enregistrer correctement. Harrison devient absolument dingue de ce genre musical tout nouveau pour lui, au point de quasiment délaisser la guitare pendant 2 ans pour se consacrer à l'apprentissage du sitar auprès de son mentor Ravi Shankar. Et son innovation lance un véritable âge d'or de la musique indienne en Occident qui va durer quelques années. Ainsi, quelques mois après Norwegian Wood, les Rolling Stones, qui trouvent l'idée quand même vachement bonne, l'adoptent en utilisant à leur tour un sitar sur Paint in Black. Et Ravi Shankar devient lui une star internationale et est invité au festival de Woodstock en 1969. George, de son côté, ne se contente pas de saupoudrer du sitar sur quelques chansons de ci de là. Après Norwegian Wood, qui était en fait un premier exercice pour voir, le Beatle s'attelle à composer véritablement de la musique indienne. Ces morceaux sont enregistrés avec une participation minimale des autres membres du groupe et avec l'aide de musiciens spécialisés. Et c'est ainsi que Harrison est considéré comme le premier artiste pop-rock occidental à utiliser la musique indienne de manière respectueuse, sincère, sans la parodier, dans un style inédit qu'on pourrait qualifier de fusion pop indienne. Le morceau le plus emblématique de cette période est Within You, Without You sur Sgt. Pepper's en 1967. George le conçoit au départ comme une longue composition de plus d'une demi-heure, remaniée en une variante de 5 minutes sur l'album. Pour s'immerger totalement dans cette ambiance indienne, je vous propose la version instrumentale.
Cette musique a donné à ma vie une direction réelle et une vraie profondeur, parce que, bien qu'ayant 22 ans à l'époque, j'avais déjà fait plus d'expériences dans ces années-là que la plupart des gens dans toute leur vie. Cette musique m'a ouvert au yoga et à sa philosophie qui est à la base de tout. Cela a donné une structure à ma vie.
Et en effet, George et son épouse Patty se passionnent pour la spiritualité indienne et en particulier pour le mouvement Hare Krishna et la méditation transcendantale fondée par le Maharishi Mahesh Yogi dont ils suivent les enseignements. Ils emmènent même les autres Beatles et leur famille faire un séjour de plusieurs semaines en Inde au pied de l'Himalaya dans la résidence de ce maître spirituel. Le reste du groupe est moyennement, voire pas vraiment réceptif à cette philosophie, mais George, lui, y restera fidèle jusqu'à la fin de sa vie et en imprégnera ses textes tout au long de sa carrière. George Harrison, curieux, créateur, innovateur, donc, on l'a vu, et George Harrison, compositeur. Alors, comment ça avance de ce côté-là? Eh bien, ça progresse, doucement mais sûrement. Harrison s'applique, il persévère, il continue de produire une ou deux chansons pour chaque album. Celles-ci n'ont pas un grand intérêt jusqu'à l'album Revolver en 1966, qui constitue un point de bascule à ce niveau-là. Pour la première fois, un disque des Beatles s'ouvre avec une chanson de Harrison, Taxman. Et celle-ci est cette fois-ci vraiment, honnêtement, une bonne chanson, dans un style très rock, presque garage rock. Au niveau du texte, c'est la première chanson entre guillemets engagée, en tout cas portant sur un sujet politique chez les Beatles, puisque Harrison y porte une critique acide avec son humour sérieux typique contre l'impôt progressif auquel il est soumis et dont il n'est pas très content. Les noms du Premier ministre et du leader du Parti conservateur de l'époque, Wilson et Heath, sont même cités dans les paroles. Et une fois n'est pas coutume, c'est Paul McCartney qui joue le solo de guitare. Voici une version de travail de Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small, be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car,
I'll tax the street.
If you try to sit,
I'll tax your seat.
If you get too cold,
I'll tax the heat.
If you take a walk,
I'll tax your feet.
Taxman. Une version brute de Taxman sur Revolver. Cet album, situé à mi-parcours de la carrière des Beatles, est une exception parce qu'il débute avec une composition de Harrison, on l'a dit. Mais également parce que pour la première fois, et ça ne se reproduira pas, George a droit ici à 3 chansons. Il n'a la permission de placer plus de 2 titres sur aucun autre disque du groupe. Et ça, George Harrison en souffrira beaucoup. Ce filtrage est effectué par Lennon et McCartney, qui ont beaucoup plus d'expérience et jusqu'alors beaucoup plus de talent en matière d'écriture, et qui ont donc implicitement des positions de meneurs au sein des Beatles. Alors certes, ils acceptent des morceaux vraiment pas très bons de Harrison à ses débuts, mais quand celui-ci s'améliore, on ne peut pas dire non plus qu'il l'encourage. On peut même dire qu'il le freine en refusant nombre de ses morceaux. Consciemment ou non, difficile à dire, en tout cas, on a l'impression que dans l'esprit de John et Paul, George reste forcément ce petit frère qui ne peut pas lui aussi devenir grand. La conséquence, durant la deuxième moitié de la carrière des Fab Four, c'est que Harrison accumule de la frustration. Lui vient de se découvrir un univers incroyable, la culture indienne, ça semble avoir débloqué sa créativité, 3 bonnes chansons sur Revolver, sa confiance en lui s'améliore, son rythme de composition augmente, mais non, ça ne sera jamais tout à fait assez bon aux yeux de ses 2 collègues. Et pourtant, Harrison devient petit à petit incontestablement un brillant compositeur. 2 ans après Revolver, l'album blanc le démontre, avec le sublime While My Guitar Gently Weeps. Quand il n'est pas énervé ou en colère contre les fans invasifs ou les impôts trop élevés, George se montre très souvent mélancolique dans ses chansons, comme c'est le cas dans celle-ci. L'enregistrement primitif que l'on va écouter est beaucoup moins rock que la version finale, beaucoup plus doux, mais tout aussi charmant, avec cette très belle voix de George Harrison accompagnée tout simplement d'une guitare et d'un harmonium.
Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.
While My Guitar Gently Weeps, Triste Lamentation, où Harrison égale le meilleur niveau de Lennon et McCartney. Restons encore un peu en 1968 sur le White Album, toujours, qui compte 4 compos de Harrison. C'est un double album, donc toujours ce fameux seuil de 2 morceaux par disque. Parmi ces morceaux, il y a celui qui est, à mon sens, le plus injustement méconnu de George Harrison et des Beatles, le petit bijou caché, Long, Long, Long.
It's been a long, long, long time. How could I ever have lost you? When I love you, it took a long, long, long time. Now I'm so happy.
Long, 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 superbe et touchante complainte, pleine d'une mélancolie sereine. Ce titre s'inscrit dans la très longue série de textes spirituels du jeune Beatle, influencé par son attachement à la philosophie indienne. Ici, c'était une sorte de chanson d'amour adressée à la divinité retrouvée après l'abandon du catholicisme dans son enfance. Harrison n'avait encore jamais connu une telle inspiration et une telle créativité que durant la période de l'album blanc. Il enchaîne ensuite avec un voyage aux États-Unis où il se lie d'amitié avec Bob Dylan et son groupe de band, où il joue avec eux dans leur studio d'égal à égal, où il redécouvre les musiques traditionnelles américaines, les racines du rock. Il revient à Londres avec des idées plein la tête. Et c'est pour tomber sur le projet Get Back des Beatles début 1969, une initiative de McCartney qui ne l'enchante mais alors pas du tout, et qui consiste en fait à enregistrer un album dans des studios de cinéma en étant filmé en continu pour annoncer un grand retour en public. George assiste à un désengagement et à un désintéressement croissant de John Lennon pour le groupe, continue de subir un ferme encadrement de la part de Paul McCartney, bref, l'ambiance est en total décalage avec la dynamique créative dans laquelle il est engagé. C'en est trop. Harrison claque la porte. Il quitte le groupe, ne donne plus de signe de vie pendant quelques jours. Et s'il revient finalement un peu plus tard, c'est en imposant ses conditions à ses collègues. Retour au studio d'Abbey Road, plus question de ces studios de cinéma complètement inadaptés, et plus question non plus d'un concert en public dont George a été traumatisé au début du groupe. John, Paul et Ringo acceptent, mettent en pause le projet Get Back, qui donnera plus tard l'album Let It Be, et enregistrent en passant pour se réconcilier un autre morceau méconnu et pourtant excellent de George Harrison, Old Brown Shoe, un super blues rock très efficace, très dense et énergique. Quelques mois plus tard, les Beatles enregistrent ce qui sera, ils ne le savent pas encore, leur ultime opus, Abbey Road. L'album voit la consécration de Harrison, son apogée au sein des Beatles, grâce aux deux chefs-d'œuvre que sont Something et Here Comes the Sun. On savait que George pouvait faire aussi bien que ses deux compères, on sait désormais qu'il peut faire mieux. La chanson Something en particulier en est la preuve, John et Paul s'inclinent et reconnaissent que c'est l'une des meilleures, voire la meilleure du disque. L'apprenti a surpassé les maîtres. Something est un morceau lent et passionné, délicatement doux-amer, qui évoque à la fois un amour inéluctable et vacillant. On écoute une très belle variante de cette chanson, la démo, mixée avec l'arrangement de cordes de la version finale.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave it now. You know I believe in how. Something in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. Stick around, it may show. But I don't know, I don't know. In the way she knows all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how.
Après ça, George Harrison n'a plus rien à prouver. Malgré la complicité retrouvée le temps de Abbey Road, les dissensions sont trop fortes, les Beatles ne seront bientôt plus. La dernière chanson que les Fab Four enregistrent en studio est une composition de Harrison, I, Me, Mine. Cette session se déroule le 3 janvier 1970 avec Paul, George et Ringo, John ayant déjà officieusement quitté le groupe. Sur cette version brute de l'enregistrement, on entend au début Harrison blaguer en déclamant un faux communiqué de presse à propos du départ de Lennon.
You all will have read that Dave D is no longer with us, but Mickey and Titch and I just like to carry on the good work that's always gone down in number two.
All through the day, I'm in mine. All through the night. I'm in mine. Now the fright of leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. I'm in mine. Even those tears, I'm in mine. No one's frightened of playing it, everyone's saying it, flowing more freely than wine. All through your life, I'm in mine.
Quelques mois plus tard, la nouvelle est rendue publique, les Beatles n'existent plus, et pour George Harrison, 27 ans, c'est une délivrance. Il va enfin pouvoir jouir d'une pleine liberté pour créer, tout simplement. L'heure est venue pour la jeune pousse d'atteindre la lumière. L'hiver semble avoir duré des années, voici le soleil.
Here comes the sun, I say, it's all right.